Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maëlys André, mais aussi Samuel Bernard et Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontanille. Troisième temps donc de notre série consacrée à la condition des femmes. Après avoir évoqué la question du consentement, après avoir parlé de l'émancipation des femmes en Asie, nous allons parler ce matin des luttes féministes dans leur ensemble, des idéologies et des théories qui les structurent. De la rue à l'université, la troisième vague féministe, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
On a quelqu'un à la tête de ce pays qui n'a aucun respect pour nous. Et nous ne sommes pas représentés à la Chambre et au Sénat. Donc nous devons agir pour que cela change.
Depuis la destitution de Dilma Rousseff, les forces conservatrices de notre société ont permis de fortifier la candidature de Jair Bolsonaro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des millions de femmes sont dans la rue pour dire qu'on n'accepte pas que le fascisme, le machisme ou le racisme ne gagnent notre société.
Depuis début janvier, 90 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint. Stop, 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 stop.
Il y a une dizaine de jours, au Brésil, des milliers de femmes sont descendues dans la rue avec des panneaux « Elenao », lui non, pour tenter de faire barrage au candidat Bolsonaro et à ses positions ouvertement misogynes, ce qui ne l'a pas empêché d'arriver en tête du premier tour. Aux États-Unis, ce sont des Afro-Américaines qui se mobilisaient le lendemain devant la Cour suprême pour protester contre la nomination du juge Brett Kavanaugh, accusé de viol, lui aussi finalement nommé. En France, cette fois, c'était à Toulouse. Il y a quelques jours, des femmes se retrouvaient pour dénoncer des violences conjugales. Pour certaines, c'était la première fois qu'elles prenaient la rue, la parole ou une pancarte. Pour d'autres, ces mobilisations s'inscrivaient dans un combat de longue date. Mais force est de constater que les mouvements pour la défense des droits des femmes sont particulièrement actifs ces derniers mois à travers la planète. Aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, le féminisme est en pleine ébullition. Pour certains, on assisterait même à l'émergence d'une nouvelle génération féministe, une nouvelle vague, en l'occurrence la troisième vague. Alors peut-on parler d'une troisième vague féministe? Quelles en seraient les racines? Quelle rupture? Quelle continuité par rapport aux précédentes? Quelles sont les formes de ce renouveau militantiste? Quelles sont les nouvelles modalités d'action aussi? Autour de quelles causes communes pourraient-ils se retrouver? Et quelles idéologies se trouveraient derrière? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin. Karine Bergès, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en civilisation espagnole à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes intéressé en particulier au militantisme, au féminisme espagnol. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. À vos côtés, Nassira et Djirassi, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure en sciences de l'éducation à la Sorbonne, une spécialiste des féminismes états-uniens et africains. Et là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Je rappellerai pour vous, Karine Bergès, féminisme du 21e siècle, une troisième vague, point d'interrogation. Et justement, on va commencer avec ça. Et puis de votre côté, Nassira et Djirassi, j'indique que vous avez réalisé la préface du livre de Bell Hooks, une célèbre militante féministe américaine de la marge au centre, théorie féministe que vous avez juste en face de vous. On va commencer justement avec cette hypothèse d'une troisième vague féministe. On va rentrer tout de suite dans les débats. Karine Bergès, quand on regarde la grande histoire du féminisme, on distingue plusieurs périodes, en tout cas les historiens, les historiennes le font. Il y a eu évidemment de grandes figures féministes dans l'histoire, mais en gros, on fait traditionnellement commencer le début du mouvement féministe au 19e siècle, avec d'abord donc une première vague des années, disons, 1850 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ce mouvement des suffragistes. Et puis vient ensuite la seconde vague, les années 60-70. Et aujourd'hui, le monde en serait à sa troisième vague, une formule qui a commencé à être utilisée du côté des États-Unis dans les années 90. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui une troisième vague féministe? Je sais que vous avez pris un livre pour répondre à cette question, mais on va commencer tout de suite avec cette question. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui la distinguerait de la vague précédente, qui revient de se demander ce qui caractérise cette troisième vague précisément, Karine Bergès?
Oui, donc effectivement, la troisième vague du féminisme, dans l'historiographie du féminisme, on a utilisé cette convention finalement autour des vagues qui ne fait pas consensus dans le féminisme. Mais on va dire que l'approche est celle d'une continuité. Donc l'ouvrage dont vous avez parlé, effectivement, travaille sur ce ces questions autour de la troisième vague avec un point d'interrogation, mais la troisième vague ou l'émergence d'une troisième vague est avérée depuis, effectivement, vous l'avez rappelé, le milieu des années 90 aux États-Unis, sous l'impulsion de mobilisation de femmes afro, de femmes issues de l'immigration latino-américaine, les chicanas et de lesbiennes politiques. Et cette troisième vague qui a émergé dans le contexte états-unien a ensuite effectivement eu des répercussions au-delà des frontières. Donc troisième vague, oui, mais je voudrais insister dès le départ sur le fait que cette troisième vague, lorsqu'on parle de troisième vague, et c'est le but aussi de l'introduction du livre, il faut travailler cette métaphore de la vague dans la continuité et la discontinuité. C'est-à-dire, je suis d'accord pour dire qu'il y a effectivement, enfin pas que moi d'ailleurs, une troisième vague, mais je crois qu'on ne peut pas parler forcément de rupture tranchée. L'histoire du féminisme est faite de remous, de vagues, d'allers-retours, de va-et-vient, de creux. Nous sommes peut-être dans un pic de la vague, avec cette ébullition dont on parle ces dernières semaines, ces derniers mois, mais je crois que la troisième vague puise aussi des formes d'action, des théories dans la deuxième vague et même, je dirais, la première vague, c'est-à-dire du mouvement suffragiste aux États-Unis puis en Angleterre.
Évidemment, et on reviendra sur toutes ces précédentes vagues, on va revenir sur ce concept d'intersectionnalité, revenir sur ce mouvement du Black Feminism. Mais d'abord, Nassira Ejerassi, même question, est-ce que vous sentez qu'il y a effectivement une troisième vague qui est à l'œuvre aujourd'hui, ou est-ce que c'est une question qui ne se pose pas ?
Voilà, moi je voulais réagir, puisque l'émission a été présentée comme portant sur les féminismes, les luttes au pluriel. Et donc là, on revient à la troisième vague du féminisme, comme s'il y avait une homogénéité à la fois sur le plan des luttes et sur le plan des théorisations. Et moi, justement,
ce qui n'est pas le cas.
Voilà, moi, je suis pas dans ces perspectives-là. Moi, qui ai travaillé beaucoup sur les féminismes africains, et je dis bien au pluriel, et les féminismes africains-américains notamment, on remet justement en question cette lecture-là et tout l'enjeu de des théorisations et des luttes aussi des féministes à la fois africaines au pluriel, c'est de rompre avec ou d'interroger en tous les cas, de questionner cette lecture qui est jugée justement par certaines, et je citerai la féministe nigériane Amina Mama, qui a forgé la notion de féminisme impérialiste, justement pour remettre en question, interroger les lectures qu'on a tendance à mettre en avant, et donc qui renvoie à une certaine conception, justement. Alors, d'un côté, on fait comme si on avait une catégorie homogène de femmes, comme s'il y avait une oppression unique, universelle, et en faisant abstraction des contextes sociaux, politiques, historiques, socio-économiques. Je suis désolée, j'entre tout de suite dans le vif.
C'est exactement le sujet du jour. Donc vous êtes exactement dans ce qu'on cherche à déconstruire aujourd'hui. Donc on est en plein dedans.
Voilà. Et donc vraiment tous ces mouvements-là, à la fois sur le plan des luttes et sur le plan des théorisations derrière. Et ça a son importance, les théorisations, parce que justement, la manière dont on pouvait appréhender alors les femmes noires, les femmes des minorités, alors tu as cité les chicanas, etc., si on est dans le contexte états-unien, lorsqu'on parle des femmes africaines, ça va être toujours comme des victimes, alors victimes d'un système patriarcal, etc., des femmes dominées. Et donc pour elles, il est central de pouvoir produire son propre appareil conceptuel qui puisse valoir pour les contextes qui leur sont propres.
Je vais poursuivre un tout petit peu avec vous et je vous rends la parole, Karine Bergès. Mais vous réfutez l'idée qu'il y aurait un bloc homogène féministe, absolu, et vous avez raison. Et en même temps, il y a quand même quelque chose qu'on a vu émerger ces dernières années. On parle beaucoup de convergence des luttes, et notamment dans le monde syndical, mais pas seulement. Et il y a derrière tout ça aussi un autre concept qui vient des gender studies, qui est l'intersectionnalité, proposée par l'universitaire américaine Kimberlé Crenshaw au début des années 90, quand elle travaillait sur les violences domestiques touchant les afro-américaines en particulier. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en quelques mots ce qu'il y a derrière ce concept, et finalement, en quoi est-ce qu'il introduit ou pas une nouvelle manière de penser les luttes féministes? Et puis ensuite, on posera la question à Karine Bergès. Nassira Ejerassi.
Voilà, donc si on reprend sur la notion d'intersectionnalité qui effectivement a a été forgée par Kimberlé Crenshaw, qui est une juriste. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a été conçu à un moment où on était en peine, hein, sur le plan juridique, à pouvoir à la fois défendre des femmes noires, au motif, à raison, si je reprends les termes juridiques, à raison du genre et à raison de la race, hein, dans le contexte états-unien. Et donc elle a forgé ce concept-là pour qu'on puisse prendre en compte le caractère imbriqué des discriminations dont les femmes noires pouvaient faire l'objet. Donc ça, ça a été vraiment central. Ce qu'il faut bien avoir en tête, toujours dans une perspective historisante, c'est que ce concept-là, il y a une généalogie. Donc ça remonte justement, ça prend racine dans les luttes des féministes noires, et notamment des féministes lesbiennes noires telles que Barbara Smith, Audre Lorde, etc., qui n'avaient pas utilisé ce terme d'intersectionnalité, qui avaient utilisé le terme d'interconnectivité. Alors je ne sais pas si la traduction n'est pas très satisfaisante, mais c'est le terme qui avait été utilisé. Donc ce concept-là, il est intéressant dans le contexte états-unien. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que ce concept a très rapidement traversé toutes les frontières disciplinaires, c'est-à-dire que c'est un concept qui a été ressaisi par quasiment aujourd'hui toutes les disciplines académiques, et ça a traversé aussi les frontières géographiques, tant et si bien ça a eu un tel succès que finalement ce concept, aujourd'hui, la conceptrice elle-même en vient à s'interroger sur la réappropriation, hein, j'utilise vraiment les termes qui sont utilisés aujourd'hui, réappropriation de ce concept ailleurs, hein, que dans le contexte états-unien, et ce qui est mis en avant et en lumière, c'est que finalement ça a été forgé dans le contexte états-unien, pour vraiment rendre visibles les oppressions des femmes noires, hein, qui étaient invisibilisées. Et finalement, on en vient à oublier les femmes noires et on va utiliser l'intersectionnalité à toutes les sauces, pour toutes les luttes possibles et imaginables. Donc pour répondre à votre question par rapport à la convergence des luttes, etc., ce qui est vraiment mis en avant par les féministes africaines, américaines aujourd'hui, et puis des féministes noires aujourd'hui racisées de manière plus large, hein, c'est une forme de dépolitisation de ce concept qui réinvisibilise celle pour qui le concept avait été forgé.
Karine Berger, sur cette question de l'intersectionnalité, de ce que ça produit sur les luttes féministes et peut-être une forme d'homogénéisation, on entend le discours de Nassira El-Djerassi qui dit au fond on a trop utilisé, on a abusé de ce terme qui a imprégné dans l'ensemble des disciplines, qui s'est diffusé un peu partout, mais on en a largement abusé, c'est un peu ce que j'entends. Karine Berger.
Oui, on a abusé et je voudrais revenir sur l'idée d'une troisième vague homogène. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Évidemment, le féminisme est pluriel et il a toujours été, dès la deuxième vague, dès la première. Donc, effectivement, quand on parle de troisième vague, il ne faudrait pas mettre des frontières étanches, puisque si cette troisième vague a une spécificité, c'est qu'elle va se caractériser par une hybridation à la fois des identités, une grande diversité, dont la diversité, par exemple, des acteurs. Hein, on a une ouverture, par exemple, aux personnes trans, aujourd'hui. Oui. La diversité des enjeux, Nassir l'a rappelé avec l'intersectionnalité, et la diversité des stratégies d'action et des luttes. Donc c'est important de garder à l'esprit que cette troisième vague est plurielle, d'où la difficulté à l'appréhender, d'où la difficulté à poser des étiquettes ou des catégorisations. Oui. Et c'est tout l'enjeu, je crois, d'un féminisme qui est en train aussi de se réinventer et qui croise, alors là je suis d'accord, hein, qui aujourd'hui la troisième vague, ce féminisme dit de la troisième vague, oui, croise des luttes féministes avec d'autres luttes. Vous avez parlé de convergence des luttes. On a par exemple effectivement des luttes contre l'antiracisme, l'anticapitalisme, l'altermondialisme, pourquoi pas la santé, l'écologie. Ça va être un féminisme transversal et qui va croiser différents fronts de lutte.
Et justement, peut-être que c'est aussi là-dessus qu'on pourrait s'attarder à présent. C'est au fond, quelle serait l'idéologie, j'utilise le conditionnel, de cette troisième vague. Dans les études de genre, on voit très bien qu'il y a, il y en a probablement beaucoup plus, mais il y a en tout cas deux grandes manières d'approcher les discriminations et les violences dont les femmes sont victimes. Il y a d'un côté une approche, je dirais, intersectionnaliste, hein, qu'on vient d'évoquer, et puis il y a une approche peut-être plus économique, plus économiste, dans laquelle on insisterait davantage sur une critique de l'économie globale, du néolibéralisme, du capitalisme, une sorte de marxisme féministe à visée transnationale finalement, voire quasiment un altermondialisme. Est-ce que cette grande fracture qu'il y a dans les études de genre, c'est pas l'une des raisons qui expliquerait cette difficulté, Nassira Edjirassi, à s'accorder précisément sur une troisième vague? Au fond, cette nouvelle génération ne s'accorde pas sur la nature de l'idéologie qui la sous-tend, qui la sous-tendrait.
Alors, par rapport à la peut-être caractérisation de différents courants ou modèles, hein, moi, vous avez cité l'ouvrage de la féministe africaine-américaine Bell Hooks. Donc Bell Hooks, son enjeu central, c'est d'interpeller sur les systèmes interconnectés d'oppression. Et donc elle est très claire, hein, c'est les systèmes d'oppression capitalistiques, impérialistes, blancs, etc., etc. Donc on est bien dans remettre en question des systèmes, des ordres sociaux de domination et d'oppression. Donc par rapport à l'ordre économique, c'est très clair. Et si je prends d'autres figures, hein, et puis d'autres luttes qui ont cours, y compris aujourd'hui, on va interroger sur l'ordre social économique qui positionne alors des femmes dans le Nord, hein, avec tous les guillemets du monde, qui sont des constructions sociales et historiques, et puis des Suds. Hein, et donc là, pour moi, je situerais plus une approche qui est universalisante, qui va plutôt mettre en avant une oppression commune de genre versus des luttes qui entendent justement interroger le système capitalistique, impérialiste et toutes les dominations. Donc là, par rapport aux premières interpellations dans les années, à la fin des années 70 et dans les années 1990, aujourd'hui on a des déplacements qui sont opérés par dans ces luttes et puis par ces théoriciennes en mettant en avant que effectivement il faudrait penser à un féminisme transnational, mais qui interpelle sur l'ordre économique, hein, et qui interpelle sur la globalisation au niveau aussi des rapports de domination.
Ouais. Karine Bergès, sur cette idée qu'au fond, il n'y aurait pas une seule idéologie précisément derrière cette troisième vague et qu'on serait quand même dans une forme de tension entre l'approche que moi je décrivais comme intersectionnaliste et puis une approche, disons, par l'économie, par l'anticapitalisme.
Oui, alors bon, déjà le terme idéologie me chiffonne un petit peu, ouais. Parce que effectivement, idéologie suppose aussi quelque chose de très fermé, tranché. Or, je crois qu'on est dans la pluralité, avec des courants féministes qui sont pluriels et variés. Je reviendrai sur ce qu'a dit Nassira, notamment le courant universaliste. Hein, je parlerai plutôt de courant plutôt que d'idéologie. Et ce courant universaliste, qui effectivement, enfin en tout cas dans le cas français ou le cas espagnol que je connais le mieux, est aujourd'hui au cœur de certaines polémiques, parce qu'on l'oppose à d'autres féminismes plus ancrés sur les expériences des femmes racisées, par exemple, ce féminisme décolonial, par exemple, et qui réfute l'idée que nous serions opprimés uniquement en fonction du genre, mais on croise différentes... c'est en fait des discriminations multifactorielles, hein, qui touchent le genre, bien sûr, mais également la race, qui touchent la classe, bien évidemment, les orientations sexuelles, voilà, et donc...
Pardon, ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'en réalité, on peut presque établir une géographie en fonction des courants intersectionnalistes, courants, disons, par l'économie, c'est la formule que moi j'utilisais, il y a une forme de géographie, avec peut-être du côté des États-Unis, au fond, une approche plus intersectionnaliste, et peut-être en Europe, pensons au cas de l'Espagne, une approche davantage par la critique de l'économie.
Je pense que les deux sont tout à fait compatibles, hein, et on trouve divers courants qui peuvent tout à fait fonctionner au sein de cette troisième vague. Donc on a vraiment, j'insiste à nouveau, hein, je suis désolée sur cette pluralité, parce que pour moi elle est au cœur de cette troisième vague. Et du coup, j'ai un petit peu de mal à opposer ou à hiérarchiser plutôt les courants. Donc du coup, ils peuvent tout à fait fonctionner parfois dans la polémique, et c'est assez salutaire. Mais également trouver des formes d'action et des formes de lutte dans différents endroits
Nassira et territoires. Nassira Edjirassi, regardons peut-être les choses par le prisme du black feminism, qui est donc né aux États-Unis dans les années 60-70, donc dans un contexte de lutte pour les droits civiques. Vous avez d'ailleurs écrit La section sur le black feminism du dictionnaire des féministes, je ne l'ai pas dit. Vous dites que ce mouvement est né, je vous cite, du déni de la problématique de la race et du racisme par les féministes américaines, comme celle du sexe et du sexisme par les militants noirs. Donc dès le départ, il y a ce désir de... En tout cas, cette caractérisation du black feminism par cette volonté d'articuler la question du racisme et la question du sexisme. Il y a un texte très important dans ce courant-là qui a été publié en 1977 par un collectif de féministes qui est intitulé le Manifeste des femmes noires. J'ai regardé l'introduction de ce texte. Je vous lis la première phrase, la traduction de la première phrase. Le racisme et le capitalisme ont piétiné le potentiel des noirs dans ce pays et contrarié leur autodétermination. Donc dès le départ, on pointe du doigt la question du racisme, mais aussi les effets du capitalisme. Sauf qu'en réalité, cette critique du capitalisme, elle devient tout à fait mineure dans le texte, et d'ailleurs mentionnée à la marge dans la plupart des articles consacrés au black feminism. Je crois même qu'il n'est pas présent non plus dans l'article que vous avez consacré au black feminism. Est-ce que ça veut dire que, assez vite, la question du racisme et des identités a pris le pas sur la critique du capitalisme dans le black feminism? Et essayons de comprendre pourquoi.
Ouais, bah, personnellement, je n'ai pas cette lecture-là. Toujours parce que si je prends une figure comme celle de Barbara Smith, hein, qui a été l'une des instigatrices de ce manifeste, et de ce collectif d'abord, puis de ce manifeste, elle se situait très clairement dans des approches marxisante. Oui. Donc, ce qui était fondamental, c'est vraiment les rapports sociaux de classe, de domination. Et en fait, ce qu'il faut bien entendre, c'est plus comme l'enjeu, c'est de mettre l'accent sur ce qui était invisibilisé. C'est du coup de mettre l'accent sur le sexisme et le racisme. Pour autant, sans minorer, il n'y a pas. Je vais reprendre une citation d'Audrey Lorde, qui est aussi l'une des figures importantes de ces féminismes africains-américains. Audrey Lorde disait justement, il ne faut pas hiérarchiser les oppressions. Et donc elle, ce qu'elle mettait en avant, et ce qui était partagé par ses acolytes et notamment Barbara Smith de ce collectif.
Il ne faut pas. Mais est-ce que c'est pas ce qui a été fait?
Moi, c'est pas la lecture que j'en fais. Mmh. Et quand je lis Bell Hooks, justement, c'est précisément moi ce que j'en ai retenu.
Mais elle est un peu à la marge, Bell Hooks, en réalité, par rapport peut-être.
Elle vient après. Hein.
Elle vient après.
Mais les premières, enfin pour moi en tous les cas, Barbara Smith, elle est très, enfin là une lecture très clairement marxisante, et les rapports sociaux de classe ne sont pas minorés. Par contre, ce que je dirais moi, c'est que dans la manière dont on s'est réapproprié la notion d'intersectionnalité aujourd'hui, on a tendance à oublier justement les rapports sociaux de classe. Mais je ne l'attribuerai pas aux premières qui ont mis ça en avant, pour qui c'était très clair, hein, les femmes noires américaines étaient au plus bas de la hiérarchie sociale. Donc la lutte de classe au sens social était présente. Et l'enjeu, c'était vraiment de faire entendre aussi des luttes féministes et des luttes antiracistes.
Karine Bergès, sur ce point-là, sur cette place de la critique du capitalisme dans le black feminism, je vais vous citer la fin d'une interview d'Angela Davis, c'était l'année dernière. Elle finissait l'interview sur ces mots. Nous n'avons toujours pas assisté à la transformation économique et à d'autres changements structurels nécessaires pour commencer à éradiquer le racisme. Est-ce que finalement, ce qu'elle ne dit pas là en creux, c'est que les mouvements de lutte contre le sexisme, le racisme auquel elle a évidemment largement participé, n'ont pas suffisamment attaqué les racines de l'inégalité raciale que sont précisément les inégalités économiques produites par le système capitaliste. Karine Bergès.
Je crois que les féminismes en général ont travaillé ces questions. Tu as parlé des féministes marxistes tout à l'heure. Je crois que ce questionnement et ce croisement des inégalités économiques et structurelles, en fait, est au cœur des théorisations féministes. Mmh. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que si on regarde un certain nombre de collectifs féministes aujourd'hui, ils questionnent clairement, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Espagne, en France ou ailleurs, dans d'autres territoire et contexte, ils croisent absolument toutes ces questions, notamment la lutte contre le capitalisme. On parlait tout à l'heure de l'Espagne, j'y reviens. Le 8 mars dernier a eu lieu une grande grève féministe, la première inédite en Espagne, et les collectifs féministes anticapitalistes étaient extrêmement présents. Mmh. C'est une grève qui a questionné, qui a croisé on peut reprendre l'intersectionnalité, puisqu'effectivement, C'est une grève du travail, une grève de la consommation et une grève contre aussi le néolibéralisme. Justement, les femmes étaient invitées à ne pas réaliser leurs achats dans les grandes enseignes néolibérales, etc. Donc je crois que cette question du capitalisme et du questionnement du capitalisme, elle est au cœur des féminismes passés et actuels.
Cette grève, c'était le 8 mars dernier, souvenez-vous.
Je dis oui à la grève à cause des différences de salaire, des violences et des différences de traitement.
Nous sommes venus demander ce que nous méritons et ce qu'on devrait avoir. Nous ne voulons pas que les hommes cessent d'avoir des privilèges. Nous voulons juste les mêmes. Nous voulons une réelle égalité.
Ouais, près de 6 millions d'Espagnols étaient descendus dans les rues, de Madrid à Barcelone, en passant par Valence et Séville. Karine Bergès, vous êtes une spécialiste du féminisme espagnol. Comment est-ce que vous comprenez cette extraordinaire mobilisation? C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a vraiment un regain du féminisme en Espagne. Au fond, pour quelle raison?
Alors, on a un regain du féminisme en Espagne, effectivement, qui est visible à travers ces grandes mobilisations à la fois féministes, citoyennes, intergénérationnelles, qui associent les hommes également aussi. Ça, c'est l'aspect le plus visible, effectivement, grand public. Mais je crois que le féminisme espagnol travaille de longue date à toutes ces questions. Et que la situation et le contexte politique espagnol ont fait aussi qu'il est appréhendé de différentes façons. Donc les années 2000 en Espagne, on note depuis à peu près 2009, un renouveau du féminisme. En tout cas, renouveau au sens où il est beaucoup plus visible, mais il récupère de toute façon des luttes passées et des théorisations passées. Mais je crois qu'en Espagne, les années 2000 ont été marquées par, en premier lieu, puisqu'on revient à l'économie,
la crise économique.
Oui. 2008, les Espagnols et les Espagnoles sont frappés de plein fouet par cette crise économique, qui va ensuite prendre une dimension au pluriel, c'est-à-dire on va parler ensuite de crise à tous les niveaux, politique, institutionnel, économique, social, etc., etc. Et je crois que ce contexte politique et économique a eu des conséquences directes aussi sur la vie des femmes. Donc le gouvernement en place depuis 2011, qui était un gouvernement donc de Mariano Rajoy, le gouvernement de droite, évidemment, dans ce contexte de crise, les premières affectées, les premières cibles sont les femmes, à savoir puisqu'on va procéder à des coupes budgétaires, par exemple, et qui affectent directement le quotidien des femmes. On parle de la double charge de travail, on va parler effectivement des tâches domestiques encore largement occupées par les femmes.
Sans compter qu'elles sont plus attentes par le chômage que les hommes.
Absolument. Et surtout,
encore l'économie.
Exactement. Et surtout l'autre économie, l'économie invisible, c'est-à-dire tout le travail domestique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le care, ou los cuidados en espagnol, le soin aux personnes. Alors aux personnes, c'est les enfants, mais c'est aussi les personnes dépendantes, les personnes âgées. Et en Espagne, par exemple, on a beaucoup moins, les maisons de retraite, par exemple, sont très très chères comme en France, mais on a beaucoup moins le réflexe encore de mettre les personnes âgées en maison de retraite. Donc les femmes assument toutes ces tâches-là. Et ça, c'est la partie, d'ailleurs, on parlait d'économie, mais les féministes espagnoles travaillent ce qu'elles appellent l'économie féministe en reprenant cette métaphore un peu de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on a une économie visible qui ferait tourner le monde, ce qui est au-dessus, visible, et puis toute une économie souterraine qui est soutenue par les femmes. Et donc en Espagne, ce contexte a largement été défavorable aux femmes, à leur carrière, puisque elles affectent directement leur quotidien. Alors, et il y a d'autres événements aussi.
Si on fouille encore un peu dans ce féminisme espagnol, on se rend compte qu'en réalité, il a plusieurs visages. Vous en voyez au moins deux. Un féminisme que vous qualifiez d'institutionnel, qu'on voit dans les partis politiques, qu'on voit dans les universités. Et puis un féminisme, disons, plus local, un féminisme de terrain. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les différences entre les deux? Et peut-être, pas seulement dans les modalités d'action, mais au fond aussi dans les sujets qu'ils portent, dans les causes qu'elles défendent. C'est peut-être pas exactement les mêmes combats qu'il y a d'un côté et de l'autre.
Bon, alors j'en vois plus que deux.
Au moins deux.
Largement hein. Plus que deux, mais bon, on va effectivement synthétiser. C'est un petit peu, il faudrait pas tomber dans la caricature, mais effectivement, bon, le féminisme espagnol déjà a une spécificité, c'est qu'il naît dans l'antifranquisme. Donc à la fin de la dictature de Franco, hein, fin des années 70, les femmes et les féministes, mais les femmes en tout cas, sont intégrées dans des mouvements antifascistes qui cherchent à mettre fin hein, cette longue dictature qui a commencé en 39. Et donc déjà, il y a une première spécificité qui est celle-ci, dans l'idée aussi déjà d'un premier croisement des luttes, hein, c'est l'antifascisme et le féminisme. Et puis, on arrive, donc il faut remonter un petit peu, avancer dans le temps, les années 80 en Espagne sont les années qui marquent l'émergence de la jeune démocratie espagnole, avec l'arrivée au pouvoir pour la première fois des socialistes, hein, après donc toutes ces longues, cette très longue dictature franquiste. Alors, pour revenir au féminisme, les années 80, avec l'arrivée au pouvoir du Parti Socialiste Espagnol, marquent une institutionnalisation du féminisme. À savoir que ces mouvements qui avaient lutté sur le terrain, dans ces mouvements antifascistes, sont effectivement un petit peu mis à la marge par un féminisme plus institutionnel. Alors, en Espagne, par exemple, en 1983, on a la fondation sous la houlette hein, du gouvernement, de l'Institut de la Femme, en 83, et qui va absorber le vivier féministe, c'est-à-dire beaucoup de féministes qui luttaient sur le terrain dans des organisations ou associations féministes. Et donc, on a en fait un féminisme qui tend à prendre en charge ces questions et à leur donner aussi à travailler sur le législatif. Donc, c'est un féminisme qu'on va retrouver dans les partis politiques, plutôt de gauche, évidemment. C'est un féminisme qui va s'exercer
plutôt de gauche, mais peut-être pas autant de gauche qu'un féminisme plus local, plus de terrain que j'évoquais tout à l'heure.
Alors, oui, effectivement. Peut-être. Alors, dans les années 80, en tout cas, ces féministes-là, c'est sous la houlette du Parti Socialiste Espagnol. Ouais. Aujourd'hui, on va plus les retrouver peut-être. Alors, on les retrouve toujours. Elles sont toujours présentes, bien évidemment. Mais aujourd'hui, par exemple, on a des mouvements anticapitalistes qui sont intégrés à travers des nouvelles formations politiques qui sont nées en Espagne, notamment Podemos en 2014. Donc, en fait, ce féminisme institutionnel va travailler plus ce qu'on appelle les politiques d'égalité. La même chose que nous avons dans notre pays, en France, hein, c'est-à-dire la surtout va mettre l'accent sur les violences faites aux femmes en réfléchissant à des plans d'égalité au niveau, en Espagne, parce qu'en Espagne, on est sur des communautés autonomes hein, dans l'organisation géographique et politique, et donc au niveau national, mais au niveau également local. Donc c'est ce féminisme-là, et je voudrais juste terminer en disant que, en fait, ce féminisme, il a été critiqué, hein, à partir des années 90, beaucoup, par justement les organisations qui demandaient une radicalité du féminisme. Le féminisme est une force subversive, c'est une force radicale, c'est une révolution. Et donc on a accusé un petit peu ces féministes d'avoir mis la priorité, d'avoir hiérarchisé finalement les discriminations et de débloquer par exemple des fonds, c'est toujours le cas en Espagne, et c'est une cause tout à fait juste vu la situation, hein, sur les féminicides par exemple. Mais du coup, le féminisme, et je crois que la troisième vague, pour revenir sur ce que nous disions au départ, cette troisième vague, elle est dans une demande de radicalité du féminisme. C'est-à-dire, contrer un petit peu l'atomisation de certaines luttes lors des années 80 en Espagne et travailler plus dans le local, sur le terrain, au contact de populations diverses et de situations diverses.
Je propose d'écouter Chimamanda Ngozi Adichie, célèbre écrivaine nigérienne qui vit entre Lagos et Washington. C'est une militante de la cause noire, mais c'est aussi une féministe, une militante de la cause des femmes. Écoutez.
In the US, I'm also black. I'm happily black, but in Nigeria, I'm not black because we don't.
Aux États-Unis, je suis aussi noir, mais au Nigeria, je ne suis pas noir parce qu'on ne parle pas de noir au Nigeria. C'est vrai. Je sors de l'avion à Lagos et je ne pense pas aux races parce que je n'ai pas à y penser. En revanche, les genres sont beaucoup plus présents. Quand je suis aux États-Unis, je pense à la race et au genre. Donc c'est quelque chose qui change constamment. Et le fait d'être une écrivaine qui est nigériane, noire et féministe signifie que les gens essaient toujours de me coller une étiquette politique. Et parfois, je veux y résister. Parce que je veux aussi parler d'amour. Et c'est la raison pour laquelle je suis partagée sur le fait qu'on m'appelle une militante. Je ne le pense pas vraiment. Les vrais militants font des choses concrètes. Moi, je suis juste assise sur une scène et je parle.
Chimamanda Ngozi Adichie, donc aux États-Unis, elles se sont noires, évidemment, fièrement noires, alors qu'au Nigeria, elles ne se sentent pas vraiment noires parce qu'au fond, tout le monde est noir et que c'est pas vraiment une question. Et finalement, elles se sentiraient moins racisées et davantage genrées du côté du Nigeria. C'est intéressant, Nassira Adirassi, parce que ça veut dire que finalement, le militantisme, même si elle refuse, rejette ce qualificatif de Chimamanda Ngozi Adichie, il varie en fonction du contexte culturel dans lequel elle se trouve. Je voudrais qu'on s'intéresse à présent à la capacité du black feminism à s'exporter et à s'adapter à d'autres contextes. On parlait à l'instant du cas espagnol. Si on regarde à ce qui s'est passé du côté de l'Europe, je voudrais comprendre comment le black feminism états-unien, donc au départ, s'est exporté en Europe. Comment est-ce qu'il a été accueilli? Est-ce qu'il a été éventuellement hybridé pour justement s'adapter au contexte, Nassira Adirassi?
Alors, la notion d'importation me gêne un peu.
Ouais. Pour quelle raison ?
Si je prends le contexte français, français pour commencer. Lorsqu'on regarde, alors c'est un travail qui reste à faire, hein, largement, parce que justement les voix des femmes noires ou des femmes racisées, si on reprend une notion qui est utilisée aujourd'hui, a été un petit peu, ces voix ont été occultées, hein, dans l'histoire du féminisme français. Mais il y a eu des collectifs, il y a eu des luttes, hein, de femmes noires dans l'histoire française. Et puis si j'ai par exemple une doctorante qui est en train de travailler sur la Guyane et qui justement met en avant des voix de féministes guyanaises qui avaient été pour le moins oubliées. Donc c'est, moi je dirais plutôt que quand on regarde les objets des luttes, on va voir que ce qui a du commun dans le sens où les femmes noires, que ce soit dans le contexte états-unien ou dans le contexte français, avec l'histoire et des traites négrières et l'histoire des colonisations, il y a un statut social particulier qui est attribué à ces femmes. Et c'est en cela, hein, que pour moi, il y a une grille de lecture du coup qui est commune. Alors, en Europe, comme cette histoire du féminisme au pluriel est insuffisamment transmise, ce qui se passe dans les nouvelles générations, mais y compris ma propre génération, j'allais dire, on a, faute d'avoir du matériau à disposition, de manière, on se tourne vers la littérature afro-américaine. Ouais. Et moi, je retrouve justement des invariants, parce que quand je regarde, par exemple, ce qui circule, ce qu'on trouve sur les blogs, ce qu'on trouve sur Twitter, etc., sur les sites, on retrouve ces figures, hein, qui sont des figures de référence pour ces nouveaux collectifs. On va voir la figure de Audrey Lorde, la figure de Bell Hooks, etc. Mais c'est simplement parce que on n'a pas suffisamment fait place, pour moi, à d'autres voix qui ont pourtant existé.
Qui ont pourtant existé,
des textes, ouais, qui ont existé. Et la différence notoire, hein, si on se dit aujourd'hui, on a un renouveau, pour moi, c'est pas qu'on a un renouveau, c'est qu'on a des outils à disposition, ouais, qu'on n'avait pas à disposition peut-être dans les générations précédentes, ce qui fait que c'était moins mainstream, que c'était beaucoup plus sous le manteau qu'on se passait des textes, etc. Alors que là, c'est diffusé de manière beaucoup plus rapide. Et donc, c'est pas une importation. On va avoir une grille de lecture qui est commune. Mais si je prends l'Europe, puisque c'est la question que vous m'avez posée, en Europe, si je prends par exemple les collectifs de femmes noires ou bien de femmes racisées, ces collectifs mettent bien en avant qu'il y a des contextes spécifiques et leur enjeu, c'est vraiment de produire des luttes qui soient spécifiques à leur propre contexte et des théorisations qui soient spécifiques à leur propre contexte, tout en s'appuyant aussi sur ces luttes et ces théorisations.
Et tout en s'appuyant beaucoup sur les féministes afro-américaines, finalement, comme s'il y avait un retour vers ces sources-là. Que vous inspire justement Karine Bergès, cette difficulté à faire émerger un black feminism, j'allais dire à l'européenne, qui finalement n'existe pas vraiment, et le fait que, disons, les féministes racisées européennes se retrouvent davantage vers les féministes afro-américaines.
Alors bon, je ne suis pas spécialiste du tout de ces questions, Nassira pourra répondre.
Moi non plus.
Mais par contre, non, il est clair que depuis, en tout cas depuis les années 2000, là si je parle du contexte français ou même espagnol, on a une réappropriation hein, des luttes des femmes afro notamment. On a en France des jeunes collectifs, jeunes au sens où ils ont été créés récemment, mais jeunes aussi parce qu'il y a un renouveau générationnel et que ce sont des jeunes femmes issues de l'immigration, nées en France, françaises, et qui questionnent justement leur propre expérience de la domination, non pas forcément en contexte colonial, mais en France, avec effectivement un regard qui marquerait un continuum d'une dimension néocoloniale de la France. Je pense au collectif Moissy, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, et qui sont des collectifs, des jeunes femmes très actives, qui soulèvent hein, beaucoup de questions et de polémiques d'ailleurs au sein des féminismes, mais qui ont le mérite de poser des questions qui peut-être effectivement étaient à la marge jusqu'à présent.
Je voudrais qu'on parle à présent du Maroc.
Et elles produisent.
Ah oui. Et c'est important. Je voudrais qu'on se tourne du côté du Maroc. Il y a eu ces derniers mois de nombreux cas de violences faites aux femmes. Très récemment, par exemple, l'agression de cette jeune femme de 17 ans, Khadija, kidnappée, séquestrée, violée par 12 agresseurs.
J'étais chez ma tante. Je devais y passer une semaine. Ma cousine et moi étions devant la maison lorsque plusieurs hommes que je ne connaissais pas sont arrivés. Ils avaient un couteau. Ils m'ont emmené de force. Ils m'ont violée. Ils m'ont tatouée, je me suis levée le matin, j'avais le bras enflé, j'avais très mal. Je connaissais l'un d'entre eux, il laissait les autres faire et il recevait de l'argent en échange.
Voilà, outre ce cas de Khadija, il y a eu beaucoup d'autres affaires récemment. Je pense à août 2017 avec l'agression d'une jeune fille dans un bus de Casablanca. Mmh. Plus récemment encore, il y a eu le cas de ce chanteur marocain Saad Lamjared, accusé de plusieurs viols aux États-Unis mais également en France, où il a été arrêté il y a quelques semaines. Il incarne parfaitement l'impunité, cette culture du viol encore tristement répandue du côté du Maroc. Nadia Leila Aissaoui, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, ancienne secrétaire du Fonds Femmes Méditerranée. On va parler évidemment des mobilisations féminines et féministes au Maroc. Mais d'abord, l'actualité, parce que l'actualité, c'est quand même il y a quelques jours, une nouvelle loi, c'était le 12 septembre dernier, sur les violences faites aux femmes, qui est rentrée en vigueur. Il faut quand même se pencher un peu sur cette loi, parce que c'est une avancée, alors peut-être pas suffisante, justement vous allez nous le dire, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'elle prévoit, et est-ce que vous considérez, vous, qu'elle est à la hauteur des enjeux, Nadia Leila Aissaoui?
Alors, c'est une loi qui avait été revendiquée et proposée depuis plusieurs années. Elle était dans les tiroirs et elle a été ressortie justement à la lumière des faits divers qui sont diffusés par les réseaux sociaux et la mobilisation, donc elle a été ressortie récemment. Les associations de femmes qui militent depuis toujours sont insatisfaites et à juste titre parce que c'est une loi qui est en fait plus axée sur la question de la moralité et l'atteinte à la pudeur que l'approche justement du respect des droits des femmes en tant que être humain et puis basée aussi sur les conventions internationales définies d'un point de vue de l'égalité, l'émancipation, le droit de disposer de leur corps, etc.
Donc c'est pas une révolution juridique, c'est pas une révolution du droit hein, qu'on voit au Maroc.
Ça n'est pas une révolution du droit, d'autant plus que bon, la loi existe, elle demande à être amendée puisque les féministes vont se mobiliser pour ça, mais ça n'est pas véritablement une loi parce que elle n'est pas intégrale et pas conforme aux normes internationales des droits humains, parce qu'elle ne prend pas en charge les victimes dans leur intégralité, elle se focalise juste sur l'idée d'éradiquer ces justement atteintes à la pudeur publique d'un point de vue moral et pas forcément l'intérêt, ne prend pas forcément en compte l'intérêt des victimes, c'est-à-dire des femmes et aussi des enfants, d'un point de vue économique, psychologique, d'un point de vue aussi juridique.
Il y a beaucoup d'insuffisances.
Qui sont manquantes et qui font que ça fait d'une certaine façon une montagne qui accouche d'une souris.
Beaucoup voilà. d'insuffisance sur la question du harcèlement de rue, beaucoup d'insuffisance sur les violences conjugales. Venons-en peut-être aux mobilisations. Est-ce que vous notez du côté du Maroc il y a eu des progrès ces dernières années en matière de mobilisation citoyenne sur la cause des femmes? Et est-ce que vous avez l'impression qu'en particulier les jeunes générations font bouger les lignes dans cette société particulièrement conservatrice? Est-ce que on hésite moins à se mobiliser?
Alors, je crois que la mobilisation au niveau des associations de femmes a toujours été très importante. La question, c'est la question de la visibilité. Comme elle, déjà dans des États qui sont liberticides, il est difficile d'être visible quand on milite pour les droits des femmes et plus généralement pour les droits humains. Donc les femmes ont travaillé beaucoup, disons, en quasi-clandestinité ou même en coulisses. L'arrivée, et particulièrement le printemps arabe, l'éclatement des printemps arabes a fait que la visibilité a été plus importante et on a vu apparaître aussi une jeune génération qui n'attendait que ça pour prendre le relais d'une certaine façon, une génération qui travaillait un peu en coulisses. Cette génération, la génération 2.0, hein, génération numérique, qui maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, qui a été ouverte sur l'international, qui a été constituée en réseau, a trouvé l'opportunité justement de poser les luttes des femmes et de les rendre publiques et de manière assez pertinente.
Donc il y a eu clairement un effet finalement des révolutions arabes sur le militantisme, sur les mobilisations, sur la cause des femmes. Au Maroc, et comme évidemment dans d'autres pays arabes, il y a un féminisme islamique, c'est-à-dire qui défend le droit des femmes tout en expliquant, tout en revendiquant un certain attachement à la religion, à la culture musulmane. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui encore au Maroc, ce féminisme islamique apparaît comme plus légitime aux yeux de la société marocaine, comme si finalement les femmes qui revendiqueraient d'abord leur proximité avec leur religion auraient plus de légitimité et plus de chances d'obtenir des avancées pour le droit des femmes?
Alors, je ne sais pas de quelle légitimité on parle et auprès de qui. Mais
De l'opinion marocaine, de la société marocaine en général.
De la société marocaine, ouais. Oui. D'un point de vue de la société marocaine qui est majoritairement croyante, je dirais, voire même pratiquante, ça reste à prouver, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ce féminisme a de beaux jours devant lui. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on parle de féminisme islamique, ça ne signifie pas que ces femmes sont pour une application de la charia telle qu'elle est ou des textes coraniques. C'est un courant de pensée dont le féminisme laïque universaliste ne peut faire l'économie en ce moment parce que ce sont des penseuses, des chercheuses, des femmes qui ont un certain niveau et qui ont décidé justement de questionner de l'intérieur, de dénoncer
de
l'intérieur.
Oui, c'est précisément là où ça se joue. Tout se joue dans l'interprétation des textes. C'est là où elles agissent, bien sûr.
Toute la question, c'est comment on interprète les textes avec une lecture féministe et qui fait que on peut, en étant une femme vivant dans la tradition musulmane, rester en accord avec sa foi, ce qui est personnel, et en revendiquant une émancipation, une égalité, des droits, etc.
Mais donc, est-ce que ça veut dire pour autant, pardon de vous couper, Nadia Leïla, mais je crois que c'est important, qu'on arrive à être parfois sur la même ligne entre, je vais qualifier, voilà, d'un féminisme islamique et, disons, un féminisme athée, ou est-ce que quand même on sent qu'il y a des tensions? Au Maroc, notamment.
Alors, le courant, je ne sais pas si on peut parler de féminisme athée. Oui. Il y a un mouvement féministe laïque, universaliste, qui revendique que la société soit gérée par des lois civiles et non religieuses. Et dans ce courant-là, il n'est pas étanche. Il n'y a pas de frontière étanche entre le féminisme islamique et celui-ci, ce dernier, parce que à l'intérieur même du mouvement laïque, il y a des jeunes filles, des femmes qui sont croyantes, qui sont pratiquantes, qui sont voilées et qui pour autant défendent le droit à l'égalité, l'égalité des salaires, les lois pour les protéger contre les violences sexuelles, le viol, etc., voire même le droit à l'avortement. Donc dans ce mouvement laïque, il y a aussi une diversité de femmes, de profils qui ont des appartenances politiques, religieuses différentes, c'est qu'il n'est pas monolithique et ça n'est pas, faire partie de ce mouvement n'est pas une injonction à devenir athée.
Oui, donc il y a une forme de porosité entre ce féminisme islamique et ce féminisme laïque, c'est vrai que c'est plus correct. Réaction peut-être avec vous Karine Berges et vous Nassira et Djerassi, alors vous n'êtes pas des spécialistes du Maroc, mais c'est vrai que ces questions-là d'opposition ou même de correspondance entre, j'allais dire ces deux blocs, même si une fois encore on voit qu'il y a une porosité entre les deux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Karine Berges?
On les retrouve en France.
Et on les retrouve en France, bien sûr.
On les retrouve en France. Là, on parle du Maroc, mais effectivement, je parlais tout à l'heure de féminisme décolonial, par exemple, où on a des tensions assez fortes. Et je crois que la question des religions et de ce regard sur l'articulation féminisme-religion est complexe. En tout cas, dans le contexte européen et d'autant plus français, avec notre
universalisme.
Oui, c'est un des sujets brûlants du féminisme.
Nassira et Djerassi, dans le féminisme européen, si tant est qu'on puisse en parler au singulier.
Oui, et puisqu'on évoque justement les nouvelles mobilisations ou le renouveau générationnel, il y a des collectifs qui se sont créés en Europe et notamment dernièrement en France avec des féministes qui se revendiquent intersectionnelles et qui vont être effectivement dans des positions qui vont puiser leurs sources dans les références afro-américaines, mais qui pour autant vont aussi revendiquer une lecture féministe des textes scripturaires et qui vont revendiquer aussi des enjeux d'émancipation.
Karine Berges, tout dernier mot.
C'est toute la difficulté parce qu'effectivement, dans le féminisme, par exemple, de la deuxième vague, les religions sont une forme d'oppression des femmes. Enfin, pas une forme, une oppression des femmes. Et du coup, la relecture de textes avec ce regard féministe, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui n'est pas forcément très très bien perçu dans notre contexte européen. Mais je pense qu'il y a un travail qui se fait et il y a un travail de compréhension aussi de ce qui est fait par ces groupes féministes. Mais avec difficulté quand même. Oui.
Merci beaucoup en tout cas Nadia Leila Aissaoui qui est avec nous par téléphone. Vous avez reconnu Fonte Labasse, qui est une chanteuse, bien sûr, mais aussi une militante féministe. Merci beaucoup à toutes les deux, Karine Berges. Je rappellerai notamment que vous avez co-dirigé Féminisme du 21e siècle de Pan, une troisième vague, pour l'interrogation qui était parue aux presses universitaires de France, mais également résistante militante citoyenne. Nassira et Djerassi, rappelons par exemple que vous avez préfacé le livre de Bell Hooks, célèbre militante féministe américaine dont on a parlé, qui vous inspire beaucoup, de la marge au centre théorie féministe, mais que vous avez aussi réalisé les entrées intersectionnalité et Black Feminism dans le dictionnaire des féministes qui est paru au PUF. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Onze heures passées de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Un article signé par deux universitaires d'Oxford, spécialistes des questions migratoires, Alexander Betts et Paul Collier, paraît ce mois-ci dans la revue Foreign Affairs. Hier, vous nous avez résumé leurs préconisations concernant les pays où la grande majorité des réfugiés ont trouvé refuge précisément à proximité de leur pays de départ.
Et oui, et une fois réglée la question des réfugiés ayant trouvé asile dans un pays voisin, la question des réfugiés en Europe apparaîtra pour ce qu'elle est, disent-ils, mineure. Mais cela exige de maintenir, je les cite, une claire distinction entre les réfugiés et les aspirants migrants. Pour être soutenable, la politique européenne de l'asile doit respecter, selon eux, 5 critères. Premièrement, afin d'être juste et prévisible pour les intéressés, les règles doivent être cohérentes, les mêmes dans chaque État membre de l'UE, fixées une fois pour toutes. Mieux encore, il faut que la réponse donnée à une demande d'asile soit identique selon qu'elle ait été formulée dans le pays d'origine, dans un havre régional sécurisé, dans un pays de transit ou bien dans un pays membre de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, écrivent-ils. Le business du trafic d'êtres humains, qui rapporte des milliards aux passeurs, continuera à prospérer aussi longtemps qu'avoir atteint le sol européen augmentera les chances de s'établir en Europe. Deuxièmement, la décision d'accorder ou non le droit d'asile devrait être prise en règle générale dans le pays de départ ou dans le havre régional sécurisé. Les membres de l'UE disposent d'un réseau sans comparaison de consulats et d'ambassades à travers le monde où de telles demandes pourraient être déposées et traitées. Les procédures doivent être simplifiées et accélérées. La Libye ne doit pas être considérée comme un de ces havres régionaux sécurisés, mais comme un pays de transit, car c'est devenu une prison à ciel ouvert. Il ne faut pas continuer à pousser les gens à s'y rendre dans l'espoir d'une migration vers l'Europe. Troisièmement, il faut établir une claire séparation entre le traitement d'une demande d'asile et l'installation dans un pays de l'UE. Une fois la demande d'asile acceptée par un consulat quelconque, un système de répartition des réfugiés doit indiquer à son bénéficiaire dans quel pays de l'Union européenne il doit se rendre.
Ce qui suppose, Brice, si on suit les auteurs, que Hongrois, Polonais et Tchèques seraient obligés d'y concourir. Mais comment les y contraindre? C'est la question.
Eh oui, un des éléments de réponse qui est fourni par les auteurs, c'est le quatrième critère précisément. Le système de répartition des réfugiés devrait tenir compte à la fois des préférences des bénéficiaires et aussi de la diversité culturelle des peuples européens. Alors on imagine que la proximité linguistique, religieuse, puisse être prise en compte dans la décision d'attribution d'une destination précise en Europe. Mais, précisent les auteurs, les dispositions de Schengen qui s'appliquent aux citoyens de l'UE ne doivent pas être étendues aux réfugiés. Ceux-ci devraient donc demeurer dans l'État membre qui leur a été assigné et ils ne sauraient prétendre aux droits sociaux ni à l'accès aux services publics dans un autre État membre. Quatrièmement, les Européens ont bien sûr le devoir moral de sauver les migrants menacés de noyade en mer, mais les ports de débarquement devraient être situés sur des îles à la périphérie de l'Europe et non pas sur le continent lui-même. C'est là que les demandes d'asile seraient donc traitées. Malte apparaît comme l'endroit idéal. Mais pour obtenir la coopération de son gouvernement, les Maltais doivent obtenir plusieurs garanties. Que l'effort consenti par eux soit compensé sur le plan financier et que les procédures soient rapides. Que les déboutés du droit d'asile soient effectivement reconduits. Cinquièmement, comment faire en sorte que les retours fonctionnent? Actuellement, écrivent Betts et Collier, un très faible pourcentage de déboutés du droit d'asile sont effectivement expulsés. La plupart disparaissent dans l'économie informelle. Or, ce système dans lequel des décisions de justice sont ignorées de facto est insoutenable, illégitime, et c'est une négation de l'état de droit, écrivent donc Betts et Collier. La politique migratoire va dessiner l'avenir de l'Europe, concluent les auteurs. Les leaders du continent ont perdu la confiance de leurs concitoyens et cette confiance ne sera pas restaurée par des disputes hargneuses sur des solutions miracles illusoires. Or, jusqu'ici, c'est tout ce que Bruxelles a offert. L'UE doit changer d'urgence son approche. Son absolue priorité, c'est de rassurer ses citoyens en adoptant une politique de l'asile et des migrations qui soit largement soutenue, qui soit conforme aux obligations éthiques de l'Europe et qui soit suffisamment prudente pour ne pas être regrettée dans l'avenir. Les migrations soutenables proposent un langage commun et susceptible d'unir, grâce auquel les politiciens peuvent renouer le contact avec les citoyens. Vous pouvez lire cet article in extenso sur le site de la revue Foreign Affairs. Le titre, c'est « How Europe Can Reform Its Migration Policy ».
Et les auteurs, donc Brice, Alexander Betts et Paul Collier de l'Université d'Oxford. Des gens qui savent un peu de quoi ils parlent quand même.
Pas trop mal, spécialiste du sujet.
Merci beaucoup Brice Couturier. On se retrouve demain dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.